L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Chers amis, bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue, c'est BFM Business, c'est l'atelier numérique et comme chaque samedi, nous allons passer 2 heures ensemble, 16h-18h, vous le savez, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno et à l'économie numérique. Évidemment, nous allons retrouver tous vos rendez-vous habituels, mais auparavant, avant de vous faire un petit sommaire de cette émission du 12 mars, sachez qu'il y a à nos côtés Lila Megraoua. Bonjour Lila.
Bonjour.
Aurore Géraud, bonjour Aurore.
Bonjour.
Et le grand, l'unique, le seul, Antoine Cyr. Bonjour Antoine.
Bonjour. Bonjour.
On aurait dit un peu immondir
à l'époque. Bonjour décidé.
Bonjour, il est 13h.
Mais non, c'est pas du tout ça. Mon cher Antoine, vous êtes avec nous. On va vous retrouver tout à l'heure pour une sélection donc de gadgets, mais aussi pour le crash test, ce sera tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, pour cet atelier, notre vue d'Asie avec Jean de Chambure qui va nous parler d'e-santé tout à l'heure. Nous aurons notre focus start-up. Vous avez rencontré Lila à Lausanne en Suisse, un des lauréats du SeedStar Summit. Un mot quand même sur ce rendez-vous qui récompense la meilleure start-up au monde.
Alors c'est ça, la meilleure start-up au monde, sélectionnée au cours d'un tour annuel dans une cinquantaine de pays. En fait, la start-up lauréate reçoit un chèque $1 million.
Ah, c'est pas mal hein, pour une start-up.
C'est pas mal. Hein.
C'est un bon début. On va découvrir ça tout à l'heure. Notre enquête de l'atelier avec un clic qui va changer le monde. On ne vous en dit pas plus, on laisse planer le suspense. Notre web stratégie, on s'intéressera aujourd'hui à la stratégie de Sigfox. Vous savez, ce réseau d'objets connectés qui est une vraie pépite française et qui voilà est en train de s'installer un peu partout dans
d'exploser.
Le monde. Voilà. Vous avez rencontré Ludovic Lemoine, qui est le président de Sigfox. Notre passion selon Sanet, on parlera des développeurs. Sont-ils des travailleurs comme les autres, tiens, les développeurs. Notre World Tour, notre French Tech Tour. Éric Le Bourlou pour 01net.com tout à l'heure et le crash test donc d'Antoine. Bienvenue, c'est parti pour cet atelier numérique et on débute par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Et si nous commencions par Aurore Géraud cette
oui,
semaine.
Oui, alors moi je vais vous parler d'achat en ligne,
oui.
D'achat en ligne via mobile, quelque chose de technologiquement incroyable et nouveau, mais plus particulièrement, alors on a vu que souvent l'envie d'achat se provoquait directement en magasin. Moi, je vais vous dire que effectivement que le métro bondé, provoque l'envie d'acheter. Alors, c'est une équipe de chercheurs chinoises et américaines qui se sont penchées sur le sujet et qui se sont rendues compte que l'usage l'achat en ligne était beaucoup plus grand dans les lignes les plus bondées aux États-Unis et en Chine. C'est-à-dire que quand il y a plus précisément moins de 2 personnes par mètre carré, le taux d'achat est de 2,1%. Quand il y a 5 personnes par mètre carré, donc quand on est tous écrasés les uns contre les autres, le taux d'achat monte à 4,3%. Donc selon les experts, c'est une manière détournée d'échapper mentalement à la pression que peut provoquer les gens aux alentours et l'espèce de sentiment de claustrophobie.
Mmh.
Mais moi, je trouve très ironique, en fait, cette étude, parce que, enfin, quand est-ce qu'on peut vraiment acheter quand on est écrasé contre les vitres de métro? Moi, j'arrive pas à sortir mon téléphone, personnellement.
Et puis surtout, la plupart du temps, on n'a pas assez de réseau pour pouvoir acheter en ligne.
Mais oui.
Dans le réseau. C'est vrai, dans le métro, c'est pas facile, hein. Antoine, vous achetez dans le métro, vous, ou pas?
Assez rarement, quand même. Les journaux.
Les journaux.
Oui. Ah oui. Quand il y a des petits relais dans le métro, j'achète les journaux.
Donc là, oui, c'est là, on va dire la vieille économie, quoi. Mais vous achetez pas depuis votre mobile des, je sais pas moi, une paire de lunettes ou.
Non, j'achète. Je peux vous dire exactement ce que j'achète dans le métro. J'achète Auto Hebdo.
Auto Hebdo.
Ça sort le mercredi. C'est un très bon journal depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que je l'achète tous les mercredis.
Mais vous seriez pas passionné par l'automobile, vous, par hasard?
Un peu, oui.
Hein? Picouzé quand même à l'auto.
Un peu. Et donc je le trouve dans le métro. Donc voilà, tant que je le trouve dans le métro, je l'achète.
Très bien. Antoine,
vous savez tout là.
Ah ben oui, là on découvre des pans de votre vie privée qui sont un peu bouleversants quand même. Antoine.
Alors, on parlait du métro.
Oui.
Alors le métro est un endroit où on peut légitimement parfois être un peu stressé. On peut aussi d'ailleurs décider d'être zen. Mais bon, vous avez des gens qui sont toujours stressés.
Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont isolés d'ailleurs dans le métro. Ils mettent leur casque, ils jouent avec leur smartphone,
etc.
Oui,
mais moi je pense qu'on peut s'isoler aussi dans ses pensées, ce qui permet d'ailleurs de temps en temps d'être aussi un peu plus attentif à l'autre, parce que c'est quand même plus facile de sortir d'une pensée que de sortir d'un casque. Mais enfin bon.
C'est sûr.
Voilà. Alors.
C'est beau. Magnifique, Antoine. Alors là, c'est bouleversant.
Vous avez des gens qui sont stressés au travail, vous avez des gens qui sont stressés en voiture. Je dis pas que ça m'arrive pas de temps en temps, hein. Ça m'arrive même assez souvent, mais bon, entre les moments où je suis stressé, j'essaye.
D'ailleurs, souvent, quand vous arrivez dans ce studio,
oui.
Vous dites, et celui-là, là, ce, qui n'a pas laissé me garer où je voulais, etc.
Voilà. Alors, où voulais-je en venir?
Oui.
Eh bien, je voulais en venir à la start-up suédoise Hidden Tempo. J'essaye de prononcer avec l'accent suédois.
C'est parfait,
qui lance une montre très design dont le bracelet est en fait un instrument de mesure qui estime la quantité de stress, l'intensité de l'activité physique et même la qualité de votre sommeil. Donc, les données sont recueillies, elles sont envoyées à l'appli qui est évidemment sur votre smartphone. Que ferait-on sans appli sur les smartphones? Et donc, avant que vous ressentiez les effets négatifs du stress, comme le mal du ventre ou une chaleur intense, l'application vous envoie une alerte sur votre état. J'imagine d'ailleurs que si quelqu'un est en train de vous stresser, vous pouvez du coup lui montrer votre téléphone et lui dire « Ah, arrête
attention.
Tout de suite, attention, tu vois, là, dans 5 minutes, je vais avoir mal au ventre ou je vais avoir une chaleur intense. » Donc, tu ne veux pas me nuire, tu ne veux pas que j'ai mal au ventre, tu ne veux pas que
regarde
mon appli.
C'est l'appli qui le dit. Hein,
voilà. Alors sinon, il y a une autre utilisation, qui est celle qui a été prévue par les créateurs de l'appli, mais moi j'aime bien celle-là quand même, qui vous donne des conseils sur ce que vous devriez faire pour vous détendre. Et puis l'application vous fournit aussi des exercices quotidiens pour apprendre à gérer la tension, parce que la tension, ça se gère avant qu'elle n'apparaisse. Voilà. Et alors aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ne se base pas sur les battements du cœur perçus au niveau du poignet, parce que ça, c'est finalement relativement banal, mais sur l'activité électrodermale. La surface de peau, en effet, est capable de retranscrire l'activité des glandes de sudation et du système nerveux autonome. Et donc, en fait, ça permet donc à ces capteurs de percevoir, comment peut-on dire, les marqueurs émotionnels qui vont générer le stress. Bon, le seul petit problème, c'est que Hidden Tempo a fait donc cet appel de crowdfunding sur Kickstarter, mais ils attendaient une somme qui, pour l'instant, n'a pas été atteinte. Donc, il va falloir, voilà, donc ils vont faire sans doute un autre tour, et ils vont essayer de s'y reprendre autrement. D'accord. Mais pour l'instant, la belle montre dont je viens vous parler n'est pas commercialisée, parce qu'on est dans un cas de crowdfunding qui n'a pas abouti.
Ils doivent être un peu stressés d'ailleurs, nos amis, non?
Sûrement, ça doit être très stressant.
Bah oui. Lila?
Je vais revenir sur la moto, après l'auto et la moto. En fait, c'est tout simplement Uber qui se lance en Thaïlande. Or, ça nous fait une belle jambe, mais ce qui est assez...
C'est vrai. Sauf si on va en vacances en Thaïlande. Hein,
tout à fait.
Ça peut avoir du sens.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont initié un pilote à Bangkok, ville où le trafic, les embouteillages sont nombreux. Ouais. Et en fait, au lieu de se lancer dans le service classique d'Uber, à savoir une voiture proposée,
qui vient vous chercher,
exactement,
voilà,
avec chauffeur, ils se sont lancés dans la moto, dans Uber Moto. Donc, en fait, ils avaient déjà lancé il y a quelques mois Uber Rush, où ils proposaient le service d'Uber à deux roues pour des services de coursier. Et là, en fait, ils étendent ce service-là aux passagers.
Ah oui.
À savoir que si vous êtes à Bangkok, vous allez pouvoir prendre un Uber, mais à moto. Donc c'est le VTC, je ne sais pas si on peut dire ça du coup, le VTC moto.
C'est pas mal en tout cas.
Et donc ils devraient lancer ça, développer ça dans d'autres villes, tout particulièrement les pays émergents.
Alors c'est rigolo parce que justement on était à Barcelone, hein, avec Lila pour le Mobile World Congress. Il n'y a pas d'Uber, il faut savoir, à Barcelone. Le système Uber ne fonctionne pas.
Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle l'autre. C'est ça.
Ailo et qui.
C'est
voilà,
ça. Et surtout il y avait la grève.
Et c'est surtout les taxis.
Il y avait la grève des transports.
Ouais, c'était un peu.
C'est un peu ballot pour la Smart City.
Antoine, pour terminer.
Alors j'ai une innovation vraiment Star Trek. Vous savez que le truc qui était compliqué pour les producteurs de Star Trek quand ils ont créé cette merveilleuse série d'anticipation qui est pour moi l'archétype du space opéra, c'est que comme c'était un truc à budget relativement limité, c'était quand même compliqué à chaque fois que les gars se déplaçaient d'une planète à l'autre de leur payer le voyage quoi, de faire un gros décollage de fusée, et etc.
Oui.
Voilà. Donc ils avaient inventé la téléportation.
Très bonne idée.
La téléportation. C'est beaucoup plus facile. Alors, aujourd'hui, on est dans la vraie vie, on n'est pas à la télé, il y a la NASA qui se demande comment acheminer des objets dans l'espace. C'est pareil, une seule solution, les livrer par fusée. Ce qui est, c'est comme à la télé, c'est cher. Un décollage,
ça prend du temps,
etc. Si les projets de conquête spatiale se réalisent, il va bien falloir apprendre autrement. Et donc, la NASA et son centre de la Silicon Valley ont peut-être fait un pas dans cette direction avec un nouveau projet d'imprimante 3D. C'est une start-up qui s'appelle Made in Space, qui est financée par la NASA et qui a conçu une machine pour permettre aux équipes dans l'espace de fabriquer certains objets, comme par exemple des pièces de rechange. Donc, la NASA, ils sont quand même pas allés avec le dos de la cuillère, ils ont investi 20 millions de dollars. Et donc, Made in Space travaille sur un système qui permettra donc qui fera que vous n'aurez pas besoin de partir avec un stock de pièces de rechange parce que sur un programme votre imprimante 3D voudra les créer. C'est quand même assez génial.
Ah ben oui.
By the way, il travaille. Vous avez vu, hein, bon, je parle.
C'est super.
Il travaille aussi sur un système qui va faciliter la création de structures de grande taille, qui vont pouvoir être assemblées par des robots dans l'espace. Donc, vous allez pouvoir envoyer des objets qui ne seront pas forcément volumineux et qui vont être transformés en objets volumineux dans l'espace. Je trouve ça formidable.
C'est génial.
Voilà.
C'est clair. Merci beaucoup, Antoine. Et place maintenant notre rendez-vous depuis l'Asie avec Jean de Chambure qui est avec nous depuis Shanghai, vous le savez, comme chaque samedi dans l'atelier numérique. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Jean de Chambure, vous le savez, qui chaque semaine dans l'atelier nous propose son regard des nouvelles technologies depuis la Chine, depuis Shanghai. Et on va parler cette semaine, Jean, de l'e-santé en Chine qui est en train véritablement d'exploser, non? On peut le dire comme ça.
Exactement, François. Ça explose. Pourquoi? Parce que, c'est assez simple à comprendre, à vrai dire. La population chinoise, comme c'est une économie qui est en train de se développer de plus en plus, que finalement les infrastructures sont là, qu'il y a une progression du niveau de vie en Chine et également une progression du niveau de la santé, l'espérance de vie en Chine est aujourd'hui équivalente à peu près à la plupart des grands pays, c'est-à-dire on est à peu plus à 75,4 ans d'espérance de vie en Chine contre 79,6 aux États-Unis. Vous voyez que c'est assez proche.
Et l'écart va se réduire en plus, bien sûr.
Exactement. Et en revanche, les dépenses en matière de santé en Chine restent beaucoup plus faibles. On parle de plus de 9 000 dollars par personne pour le domaine pour la santé et à peu près 370 dollars par personne. Donc c'est entre 5% pour la Chine du PIB et 17% pour les États-Unis. Si je vous donne ces chiffres-là, c'est pour aussi mettre en lumière le fait que les Chinois dépensent aussi un peu moins en matière de santé. Bon, il y a également développement économique, mais pas que. C'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas beaucoup de médecins par rapport au nombre de Chinois qui sont habitants du pays. En gros, c'est deux fois moins qu'en France. En France, je crois 300 pour 100 000 habitants et en Chine, c'est 150 pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez que c'est quand même très significativement en dessous. Alors, pour que la santé des Chinois s'améliore, en fait, il y a énormément d'applications mobiles. C'est ce qu'on appelle la M-Santé. Alors, la M-Santé, les services de M-Santé, ça touche aujourd'hui 66 millions, ça touchait 66 millions de Chinois en 2014. Ça touche aujourd'hui plus de 138 millions de Chinois. Donc, c'est une augmentation qui a presque triplé. C'est très, très important. Mmh. Et il y a des tas d'applications qui vous permettent de vous mettre en bonne santé de tas de manières. manières différentes. Il y en a une, je ne résiste pas à vous la citer, François, c'est... alors, attendez, voilà, l'accent, faut qu'il, l'accent soit correct. Hein. Mais bon, je me lance quand même dans cette prononciation. C'est Jijian Kan, voilà, Jijian Kan.
Bravo.
Alors, ça veut dire, en fait... rappelez-vous d'être en bonne santé, Jijian Kan, ce qui est un principe somme toute très,
oui, très
intéressant. Vous savez que la médecine chinoise est quand même parmi les médecines dans le monde les plus portées sur la prospective, parce qu'en fait on ne va pas tellement voir un médecin pour aller mieux, on voit un médecin pour demain ne pas tomber malade. Mm-hmm. Donc c'est intéressant comme approche.
Oui, c'est de la prévention en fait.
Exactement, la prévention, et c'est vrai que c'est traditionnellement quelque chose qui fonctionne bien. Et alors, donc, cette application-là va vous donner, en fait, des tas de conseils pour vous maintenir en bonne santé. Donc, ça va de, voilà, un certain nombre de check-up, des informations après qui peuvent être liées à des services payants parce que c'est lié à certains types de maladies, type cancer, Alzheimer, maladies cardiovasculaires, des maladies assez chroniques qui nécessitent un suivi particulier. Et c'est lié aussi, en fait, cette application dont je vous ai parlé est liée à une entreprise chinoise qui est un réseau de cliniques, et de ce qu'il appelle de health checking, qui sont présents. Donc, il y a 40 centres médicaux qui sont à Pékin, à Shanghai, à Shenzhen, bref, dans différentes villes chinoises et qui sont liées à cette application. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans le domaine chinois. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a la possibilité d'avoir rendez-vous avec des docteurs, avec des diagnostics à distance, et oui, docteur. Mmh. Il y a des tas d'applications plus verticales qui touchent le domaine des femmes, bien sûr, parce que les femmes sont extrêmement connectées. Et vous savez qu'il y a tout un processus démographique en Chine qui est en train de petit à petit accepter l'idée d'avoir un second enfant. C'est légal d'un point de vue
ça bouge enfin,
on va dire. Mmh. Comme ça, mais c'est pas encore complètement dans les mœurs.
Merci, donc, Jean.
Plus en plus de femmes regardent ça.
Merci beaucoup. Voilà la vision de l'e-santé en Chine avec Jean de Chambure dans ce Vue d'Asie. Jean, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans l'atelier numérique sur BFM Business et vous restez avec nous. On poursuit dans un instant avec le Silicon Carnet et les gadgets d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, ce sera la collection de gadgets d'Antoine. Les cyber-gadgets dans quelques minutes, mais auparavant, notre Silicon Carnet depuis l'atelier US. Nous avons avec nous Arnaud Auger. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors de quoi allez-vous nous parler cette semaine Arnaud?
Alors je vais vous parler d'un rapport publié par 500 startups, l'accélérateur issu de la Silicon Valley qui se targue d'être le plus grand accélérateur au monde avec 1400 startups dans 50 pays depuis leur création en 2010.
Alors de quoi parle ce rapport Arnaud?
Alors des collaborations entre les grands groupes et les startups. En effet, comme le dit Klaus Schwab, le fondateur du World Economic Forum, dans le monde d'aujourd'hui, ce ne sont pas les gros poissons qui mangent les petits, mais les rapides qui mangent les lents. Et plusieurs grands groupes l'ont appris à leurs dépens, Kodak, Blockbuster ou Borders, qui étaient respectivement leaders des marchés de la photographie, de la location de films ou de la vente de livres, ont tous fait faillite et ont laissé place à des Netflix ou à des Amazon. Et pourtant, les startups et les grands groupes ne sont pas forcément ennemis. Et Arnaud Boson, qui est le directeur d'innovation corporate à 52 Startups, qui a rédigé ce rapport, a étudié toutes les formes de collaboration. Alors déjà, un premier cocorico, puisque Arnaud est français,
oui,
et que le rapport a été fait en partenariat avec l'INSEAD, la célèbre école de commerce de Fontainebleau.
Alors, qu'est-ce que font ces grands groupes et avec quelles startups en fait?
Alors du coup, ça va des événements créés par des grands groupes, hein, par exemple Vivatech, qui est écrit par... Publicis et Les Échos, ou sponsorisés par des grands groupes comme Hello Tomorrow avec Orange, Roche, Carrefour, Michelin, Airbus, Air Liquide, mais également des espaces de coworking mis à disposition, comme Microsoft qui propose des Microsoft Innovation Centers dans 33 pays, mais également des programmes d'incubation ou d'accélération comme celui de BNP Paribas sur la fintech, mais également des compétitions de start-up. L'Oréal, par exemple, donne un programme pour les femmes entrepreneurs digitales. Mais enfin, on a également des investissements. Je pense à SoftBank, qui est un opérateur télécom japonais, qui investit beaucoup dans les pays émergents. Donc on voit que les grands groupes peuvent investir dans les startups qui ne sont pas de, de leur pays d'origine. Par exemple, SoftBank investit beaucoup en Inde. Et on voit que les grands groupes n'investissent pas uniquement sur leur verticale. Par exemple, Coca-Cola investit dans Spotify, la célèbre plateforme de musique. Mm-hmm. Et pour finir, en effet, les grands groupes évidemment font les acquisitions de startups. On peut parler de Microsoft, encore une fois, qui a fait l'acquisition de Sunrise, une startup créée par un Français, Pierre Valade, pour plus de 100 millions de dollars. Ou BIM, une startup montpelliéraine qui a été achetée par Zendesk pour près de 45 millions de dollars.
Cocorico, encore une fois donc. Est-ce que vous avez des petits chiffres intéressants à nous donner, Arnaud, justement, sur ce sujet?
Oui, voilà, il y a 68 des 100 plus grandes entreprises du classement Forbes qui collaborent activement avec les startups. Donc on voit que ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, 61% des licornes, ces fameuses startups qui ont grandi au point d'avoir une valorisation au-delà du milliard de dollars, ont levé des fonds auprès d'au moins un grand groupe, ce qui prouve que les grands groupes sont aussi utiles pour la croissance des startups. Et enfin, un nouveau cocorico, puisque les Français sont champions du monde de la collaboration avec les startups, puisque 23 des 25 plus grands groupes français collaborent avec des startups. Et je vais par exemple citer le fonds d'investissement EcoMobility, dirigé par Air Liquide, Michelin, Orange, SNCF et Total.
Arnaud, est-ce que tous les secteurs sont touchés?
Oui, tous les secteurs sont touchés et on se rend compte que même des secteurs comme celui de la pharmacie donnent étonnamment lieu à beaucoup d'échanges entre les startups et que 16 des 17 plus grands groupes pharmaceutiques collaborent activement avec des startups.
Merci. Donc, allez-y Arnaud, oui.
Oui, voilà, du coup, c'est vrai qu'Arnaud Boson donne de nombreux exemples et recommandations dans un rapport très intéressant, assez complet, qui parle d'un sujet que je trouve n'est pas assez traité et qui explique comment les startups et les grands groupes peuvent travailler ensemble pour innover.
Très bien, merci beaucoup Arnaud Auger de l'atelier US.
Merci.
Merci beaucoup. Et tout de suite, donc, on enchaîne avec Antoine pour sa sélection de gadgetos.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et place maintenant à la gadgeto d'Antoine. Une gadgeto qui vous tient à cœur, mon cher Antoine, puisqu'on le sait, vous détestez les sports mécaniques.
Hein, oui, bien
sûr. Voilà, bien sûr. Alors s'il y a bien, alors c'est pas tout à fait un gadget, mais c'est une tendance dans le domaine de la high-tech, c'est l'électrique. On le voit, elle arrive dans le domaine de l'automobile, voilà, pour le grand public, mais aussi dans le monde de la Formule 1.
Oui, alors d'abord, il y a une chose que les gens ne savent pas, ou pas beaucoup, c'est que le sport automobile, c'est en fait un énorme banc d'essai des nouvelles technologies non polluantes. Vous savez par exemple qu'aux 24 heures du Mans, il y a des années que les voitures qui gagnent les 24 heures du Mans sont des voitures hybrides. Parce que les règlements des 24 heures du Mans vous donnent des jetons de puissance qui vous autorisent à exploiter un certain niveau de puissance. Et selon le degré d'hybridité de votre voiture, vous avez plus ou moins de jetons de puissance.
D'accord. Donc oui, là, c'était une nécessité de passer à l'hybride, en fait.
Ben, le règlement vous oblige à avoir une voiture hybride
et
la
après,
plus poussée.
Toutes ces technologies arrivent dans le grand public.
Par exemple, les Porsche, qui a gagné cette année les 24 heures du Mans, fait de l'hybride dans ses voitures de série, de plus en plus, et a exploité une technologie hybride qui est absolument à l'avant-garde pour gagner les 24 heures du Mans. Mais donc, l'hybride, c'est une chose, il y a le tout électrique, et donc il existe un championnat qui s'appelle le championnat de Formule E, le concurrent du championnat de Formule 1,
d'accord,
sachant d'ailleurs que les Formule 1 ont aussi un moteur hybride maintenant.
Et oui.
Mais la Formule E, c'est du tout électrique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les deux premières années du championnat de Formule E ont été plutôt des réussites. Les constructeurs s'engagent, les spectateurs
sont plutôt au rendez-vous. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'à terme, ça peut remplacer la Formule 1?
C'est pas complètement impossible, d'autant plus que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, comme l'électrique est vu par les villes comme une solution d'avenir, en plus, les organisateurs de la Formule E ont été très malins, parce que, par exemple, toute l'électricité qu'ils utilisent pour leurs installations est produite à partir de matières renouvelables.
D'accord.
Enfin, il y a toute
oui.
une...
Tout un discours y a marketing, une espèce derrière de, tout ça.
Ben, un discours marketing, mais qui repose quand même sur une utilisation systématique des technologies.
Mais ça va à l'encontre de la pollution pollution qu'engendre la Formule 1. Donc on est vraiment
De la pollution imaginée qu'engendre la Formule 1, parce qu'en réalité, dans une Formule 1, dans un Grand Prix de Formule 1, l'essentiel de la pollution vient des voitures des spectateurs, comme dans un match de foot.
Oui, c'est ça. Mais en termes d'image, c'est vrai que
en termes d'image, c'est différent. Hein, mais la pollution réelle d'un Grand Prix de Formule 1, elle est pas supérieure à celle de n'importe quel autre événement sportif. Mmh. Mais donc le 23, donc si c'est passé, c'est que par exemple à Londres, on a eu un Grand Prix de Formule 1 qui s'est très bien passé. Et là, quand même, la ville de Paris s'est dit, Londres a fait une formidable opération avec ce Grand Prix dans la ville de Londres, qui a beaucoup plu. Et donc, ils ont accepté pour 2016 d'organiser un Grand Prix de Formule E qui va se dérouler le 23 avril et qui va se dérouler devant les Invalides, sur l'esplanade des Invalides, donc dans un lieu évidemment ultra public et ultra familier des Parisiens. Apparemment, les places, c'est pas encore très clair, mais enfin, l'accès sera assez facile pour un large public et les places ne vont pas être vendues très chères. Ça va être, là, pour le coup, la possibilité d'accéder à un grand spectacle de course automobile pour un prix raisonnable. Mais un grand spectacle de course automobile, parce que les voitures vont à 230 km/h et parce qu'on a des grands pilotes. La plupart des pilotes qui courent en Formule 1 sont des pilotes qui étaient en Formule 1 il y a un ou deux ans, ou qui seront peut-être en Formule 1 dans un ou deux ans.
Ça va être intéressant de voir justement l'évolution de cette technologie électrique dans la Formule E. Et est-ce que ça remplacera peut-être la Formule 1 dans quelques années? On verra bien. Merci Antoine. On revient dans un instant. La suite de l'atelier numérique, c'est dans une minute sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, bien entendu, dans un instant. Nous allons retrouver notre web stratégie, mais auparavant notre focus startup. Et on a rencontré cette semaine à Lausanne, en Suisse, un des lauréats du site Star Summit. Et c'est avec vous, Lila Megrawa.
Oui, François. Alors, comme on l'avait annoncé en début d'émission, je rencontre l'une des lauréates du site Star Summit, Rokhaya Diop. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Rokhaya Diop, vous êtes chef de produit VTIP de la start-up Volo, sénégalaise Volo. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous parler un peu du concept de cette start-up e-health?
Voilà, le concept de notre plateforme VTIP qui s'appelle Volo Trust Information Platform. Le but, c'est de parvenir à améliorer le secteur de l'assurance, de la couverture médicale au Sénégal et en Afrique en général. Parce que les statistiques disent que 80% de la population sénégalaise et ouest-africaine n'ont pas accès à la couverture médicale parce que le coût est assez cher. Il est même très cher par rapport au niveau de vie de la population. Et les compagnies d'assurance, les prix fixés par les compagnies d'assurance fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas y accéder et c'est parce qu'il y a la fraude que rencontrent les compagnies d'assurance, ça se chiffre à 30% de leur chiffre d'affaires. Et ils ne peuvent pas également donner de la couverture médicale à des individus et à des familles, parce que c'est trop risqué pour eux. Et c'est là qu'on nous on intervient avec notre plateforme, qui aide les compagnies d'assurance à diminuer la fraude et également à diminuer le papier, l'utilisation du papier et les process, faciliter les process. Donc si on parvient à réduire la fraude et à faciliter les process, le coût de l'assurance va diminuer et ça va permettre aux compagnies d'assurance de pouvoir attaquer le marché des individus et attaquer le marché des familles.
Alors, à savoir concrètement, quelle solution proposez-vous?
La solution qu'on propose avec VTIP, c'est déjà pour les patients. N'importe quelle personne qui vient au Sénégal peut télécharger notre application qui s'appelle vtipsante.com. Et c'est disponible sur App Store et Play Store. Ça leur permet d'avoir une base de données de 665 médecins avec leur numéro de téléphone, la photo de leur bureau, l'itinéraire pour s'y rendre. Donc c'est extrêmement utile pour les Sénégalais et pour toute personne étrangère au Sénégal et d'avoir accès facilement aux médecins qu'il leur faut en un clic. Et également pour les professionnels de la santé, ce qu'on permet de faire pour les médecins par exemple, c'est de sécuriser leurs transactions qu'ils font avec les compagnies d'assurance. Parce qu'une statistique qu'on a, c'est 40% pour les dentistes, 40% de leurs factures sont rejetées par les compagnies d'assurance parce qu'ils n'ont pas l'information à temps. Donc il y a la fraude à la substitution, il y a la fraude à la médicamentation. Donc ils sont vraiment pénalisés par tout ça. ils font leur traitement en toute bonne foi, envoient leur facture à la compagnie d'assurance et on leur dit que ce traitement n'était pas couvert, ce patient ne faisait pas partie de la police, etc., etc. Donc il y a une méfiance qui s'est installée dans le secteur de la couverture médicale et on est là pour essayer de changer ça et d'apporter de la confiance.
Donc quelque part, ce que vous dites, c'est que pour les professionnels de santé, à partir de votre appli, à partir d'une simple appli, ils vont pouvoir vérifier à la fois la teneur et la validité d'un traitement, mais également le passif, enfin pas forcément le passif, mais le statut d'un patient.
Exactement. Ils peuvent avoir le statut, par exemple, si le patient est toujours couvert par la police d'assurance, si la limite financière est toujours OK, etc., etc. Ce qui fait qu'ils envoient en toute bonne foi et en toute sécurité leurs transactions à la compagnie d'assurance. Et maintenant, les avantages pour les compagnies, c'est qu'il y a un gain de temps qui est énorme parce que tout le travail est fait en amont à travers la plateforme. Et ils ont leurs statistiques en temps réel. Ils savent s'ils gagnent ou s'ils perdent par assuré, par police, etc. Donc ces statistiques leur permettent de faire les ajustements nécessaires et d'avoir la sécurité nécessaire. Ce qui fait que, actuellement, ils ne visent que les grosses compagnies pour leur donner la couverture médicale. Mais avec notre plateforme, ils peuvent donner de la couverture à des individus parce que le risque est amoindri et donner de la couverture médicale à des familles, etc., etc. Donc on ouvre vraiment des perspectives pour le secteur de l'assurance.
Merci beaucoup, Rukaya Diop. Je rappelle, vous êtes chef de produit VTIP de la start-up Volo.
Merci beaucoup, Lila. Et place à notre enquête de l'atelier. Et en compagnie de Lila et de nos invités, on va s'intéresser au clic qui va changer le monde. Comment
c'est
un
ça.
Clic peut-il changer le monde,
on Lila. Va s'interroger là-dessus avec deux spécialiste. Salem Massala, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la start-up franco-égyptienne Bassita.
Tout à fait.
Et on a le plaisir d'avoir en studio Benjamin Desgachon. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Benjamin, vous êtes directeur général France de Change.org. Alors, commencez par me raconter, Salem Massala, il y a une petite histoire qui se cache derrière Bassita.
L'idée, en fait, du click-funding, c'est une innovation égyptienne et pour l'instant, on est les seuls au monde à le faire. L'idée nous est venue avec la révolution du 25 janvier. On a vu à quel point la jeunesse se mobilisait sur les réseaux sociaux, à quel point elle était connectée, à quel point elle pensait que les réseaux sociaux pouvaient changer un régime politique et pouvaient changer leur avenir. Et quand on a vu cette énergie absolument extraordinaire qui était déployée sur les réseaux sociaux, on s'est dit pourquoi pas créer un nouveau modèle qui permettrait de réutiliser cette énergie à des fins de développement économique. C'est-à-dire, pourquoi pas inventer un modèle qui permet au CLIC de développer localement son pays. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec le CLIC Funding. Donc, le CLIC
Comment ça marche ? Expliquez-nous.
Alors, c'est très très simple. Et c'est un concept qui est extrêmement cool d'ailleurs, parce qu'il permet aux internautes de financer une cause sociale, culturelle, environnementale, juste en cliquant, likant, tweetant, commentant une campagne sur les réseaux sociaux. En fait, je vais vous donner un exemple très simple. Notre première cause, c'était avec les opticiens Baraka Fashion Optics. C'est un petit peu les afflelous locales. Eh bien, pour 10 000 vues sur une vidéo, ils offraient 1 000 paires de lunettes aux artisans d'Égypte.
Donc, d'accord. Et alors là, c'est comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que sur la vidéo, il y avait de la pub, c'est ça ?
Absolument pas.
D'accord. Comment trouvez-vous l'argent alors ?
Alors, en fait, c'est très simple. La vidéo montre la cause. Donc l'important, c'est aussi de sensibiliser les gens sur l'importance d'une cause.
D'accord.
À la fin, il y a écrit que la vidéo est sponsorisée par tel sponsor. En fait, l'idée, c'est je clique, j'impacte, je clique, je crée. Ce modèle-là a pris énormément d'ampleur. Et le week-end dernier, on vient de lancer une cause avec UNICEF Égypte qui nous a permis de créer plus de 1000 connexions à l'eau courante pour plus d'1,5 million de clics.
Alors, Benjamin Desgachon, j'imagine que vous approuvez ce concept. Change.org, c'est l'un des grands champions à la fois de la pétition en ligne et de la... comment provoquer l'engagement.
L'engagement et le changement, oui, tout à
fait. L'engagement et le changement auprès des internautes. Aujourd'hui, c'est des milliers, parfois des millions d'internautes qui vont signer vos pétitions.
Aujourd'hui, c'est 135 millions d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 6 millions en France. 6 millions d'utilisateurs actifs qui viennent agir au quotidien pour s'engager sur des campagnes et faire changer les choses, puisqu'on a calculé qu'on est à environ une victoire sur une pétition par heure dans le monde. C'est-à-dire chaque heure dans le monde, une pétition aboutit à un changement concret, que ça soit législatif, politique, social, quelle que soit la cause portée par ses utilisateurs.
Et est-ce que vous remarquez, les réseaux sociaux sont vitaux pour la bonne menée d'une campagne d'engagement?
Bah, l'idée de Change.org, c'est de proposer un outil de pétition complètement au goût du jour, c'est-à-dire intégré dans les réseaux sociaux. Et évidemment, ces réseaux sociaux font caisse de résonance à des mobilisations qui sont initiées chez nous et vice-versa. C'est-à-dire, c'est un écosystème d'outils numériques que maintenant les citoyens ont dans leurs mains, qu'ils savent utiliser avec de plus en plus d'efficacité pour demander des choses précises à des décideurs, pour s'engager sur des causes et obtenir des changements concrets.
Alors vous me disiez en préparant l'émission que c'est également un moyen aussi pour beaucoup d'associations de se numériser. Vous les accompagnez à se transformer digitalement.
Complètement, on est en fait devenu une sorte de média de l'engagement sur lequel des utilisateurs découvrent ce que c'est que s'engager sur des causes. Et donc on est devenu un espace incontournable pour des centaines d'organisations qui, elles, ont des causes à faire connaître et ont un besoin de recruter des utilisateurs pour ensuite les transformer en donateurs, en militants, sympathisants. Et on parlait à l'instant de l'UNICEF. UNICEF fait partie de ces organisations qui sont présentes sur Change.org, qui sponsorisent des campagnes pour faire quoi? Pour aller recruter auprès de nos utilisateurs celles et ceux qui sont les plus enclins à s'engager sur leur cause, ensuite sur la durée, à devenir demain leur futur contributeur, sympathisant et ambassadeur.
Salem Massala, est-ce que sur Bassita, est-ce que vos utilisateurs sont forcément tech friendly? J'imagine que pour que ça marche, il faut qu'ils soient un tant soit peu connectés et adeptes des réseaux sociaux.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux en Égypte sont continuellement en train de boomer et que à peu près tout le monde est sur Facebook. Si par exemple on va dans une petite campagne égyptienne, les gens, ils auront plutôt tendance à dire qu'ils vont rentrer sur le Face plutôt que dire qu'ils vont rentrer sur Internet, Face pour Facebook.
Ah oui.
Donc l'Égypte est vraiment un pays extrêmement, extrêmement connecté. Et nous, avec Bassita, on suit l'ensemble des actions qui se passent à travers les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on suit l'implication de l'utilisateur sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Et chacune de ces actions, chacun de ces clics sont après transformés en points qui va dans la progress bar. C'est-à-dire que pour nous, le clickfunding, donc on est extrêmement surpris que personne d'autre dans le monde ne soit arrivé avec cette idée-là. Parce que pour nous, c'est vraiment une avancée extrêmement organique des réseaux sociaux. Et on trouve que lier un impact à un clic, un impact concret sur le terrain à un clic, c'est une évolution extrêmement organique des réseaux sociaux.
Est-ce que les Français sont friands, sont engagés plutôt?
Je pense qu'ils sont extrêmement friands. D'ailleurs, là, on est dans notre année pilote en Égypte a vraiment cartonné. On a réussi avec un petit peu moins de 2 millions de clics et de créer des courants de l'eau, des lunettes de vue, des voyages à la mer pour des enfants qui n'avaient jamais vu la mer de leur vie. Et là, en fait, on est ici à Paris pour notre première levée de fonds, accompagnée par l'accélérateur Thinkers & Doers. Et on est là justement pour répliquer le modèle du clickfunding, parce que je pense qu'on clickfonde aussi facilement à Paris qu'à New York, qu'au Caire ou qu'à Cape Town. C'est un modèle qui se réplique extrêmement bien, qui voyage extrêmement facilement et qui a une scalability absolument infinie. Et on espère pouvoir offrir très prochainement, dans les mois à venir, l'opportunité aux web users français de cliquer financer, c'est-à-dire de cliquer pour la cause pour laquelle ils croient et de créer un impact dit concret.
Benjamin Desgachon, est-ce que vous partagez également ce point de vue, à savoir que les Français sont-ils engagés sur le net?
C'est certain que le potentiel est énorme. Si vous regardez la progression de ces dernières années des dons en ligne, par exemple, c'est la progression, une des progressions les plus fortes.
Oui, le crowdfunding est très très fort.
Notamment, et donc il y a un enjeu majeur pour notamment les ONG, l'association, à saisir ce virage numérique qui est en train d'arriver et à investir de manière plus stratégique et visible ces nouveaux espaces sur Internet, ces nouveaux outils qui sont développés par ces startups et ces organisations. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de faire comprendre à ces organisations que c'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut se lancer, qu'il faut tester ces nouvelles approches pour aller chercher ces nouvelles ressources, parce qu'elles sont là, les internautes sont en train de s'engager avec ces nouveaux outils beaucoup plus intuitifs, accessibles et efficaces qu'avant. Donc c'est le moment de saisir cette envie d'agir des citoyens en les accompagnant, en les emmenant dans ces nouvelles formes d'action et d'engagement qui sont bien concrètes, hein, parce que derrière ce sont des dons, ce sont des actions de terrain, ce sont des pétitions qui font changer les choses. On est sur du concret et pas simplement de simples clics. On est vraiment sur des clics qui produisent du changement.
Absolument. Alors la France, vous me disiez, est le cinquième pays le plus actif sur votre site.
C'est le cinquième pays en termes d'utilisateurs.
Comment vous expliquez ça ?
Ah, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais le premier, c'est le fait que la tradition de la pétition, elle est quand même longue en France. On est sur un pays où on aime revendiquer, demander des choses, si on remonte jusqu'à la Révolution française et d'autres étapes comme celle-ci. Donc l'idée, c'était d'adapter ce format aux usages d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que proposer une plateforme ouverte avec des outils intégrés dans les réseaux sociaux qui permettent facilement s'engager, mais non pas moins efficacement, c'est normal que ça rencontre un écho assez important dans un pays comme la France. Et on a d'autres pays peut-être plus surprenants. La Russie, c'est notre quatrième pays en termes d'utilisateurs, où l'on pense qu'il y a une chape de plomb politique, mais c'est un petit peu aussi ce qu'on vient de voir en Égypte. Les citoyens se saisissent d'Internet pour aussi agir autrement et faire face aux blocages qui peuvent exister jusqu'ici.
Et alors pour revenir sur ces outils que vous mettez également à disposition des associations, est-ce que la possibilité d'utiliser la pétition en ligne change.org, est-ce que c'est forcément natif sur le site, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'exporter sa campagne sur ses propres plateformes?
Alors, c'est vraiment l'organisation qui choisit sa manière de mobiliser. Comme toute plateforme web, on a une API, c'est-à-dire une interface qui peut être utilisée par une organisation pour inclure un widget de pétition sur son propre site. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les organisations veulent être présentes et visibles sur Change.org parce que, encore une fois, on est devenu ce média de l'engagement identifié comme tel. Et donc, il y a une attente aussi des citoyens à découvrir ces ONG sur la plateforme. Donc, c'est vraiment l'ONG qui décide de communiquer et d'être présente comme elle le souhaite sur notre outil.
Salem Massala, demain Bacita sera-t-il en France ? Disponible en France ?
Tout à fait, très très bientôt le clickfunding sera disponible en France avec un petit peu la même capacité de change.org, en ce sens qu'elle va aussi ouvrir aux gens qui ont leur cause. Ils vont pouvoir uploader leurs propres vidéos et vont pouvoir œuvrer et manipuler leur propre clickfunding campaign selon leurs moyens. C'est-à-dire que non seulement nous, on va faire des campagnes pour pouvoir social, environnemental, culturel, pour pouvoir apporter un changement, mais on va permettre aussi aux utilisateurs d'apporter leur propre campagne et d'apporter leur propre cause sur notre plateforme.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Voilà.
Merci beaucoup.
Le clic qui va changer le monde. C'est pas mal du tout. Alors, vous restez avec nous sur BFM Business pour la suite de cet atelier numérique avec, dans un instant, un point sur la stratégie de Sigfox. Vous savez, c'est un réseau complètement révolutionnaire qui va permettre, en fait, et qui permet déjà aux objets connectés de communiquer entre eux, à travers la France, mais aussi de plus en plus à travers le monde. Et vous recevrez dans quelques minutes le président de Sigfox, hein, Ludovic Lemohan. Ce sera notre web stratégie. Puis ensuite, notre passion selon Sanette et le World Tour, bien évidemment. Et la rédaction de Zeronet.com. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques instants, notre passion selon Sanette dans cet atelier numérique sur BFM Business. On va parler de développeurs, des travailleurs comme les autres, les développeurs. On verra ça dans quelques instants. Mais dans l'immédiat, notre web stratégie. Et on va revenir sur la stratégie de Sigfox, l'une des perles de la tech française. Lila Megrawa, vous avez rencontré son président Ludovic Lemohan.
Oui, François. Alors, on va faire le point sur la dernière année passée pour Sigfox avec son président Ludovic Lemohan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Ludovic Lemohan, on s'était vu il y a un peu plus d'un an à l'occasion de votre dernière levée de fonds. Alors, depuis, l'année a été très très riche pour Sigfox. Vous êtes déployé dans une dizaine de pays. La ville de San Francisco a adopté votre réseau, faisant de Sigfox un des opérateurs de la Smart City vue à la San Franciscaine. Que retenez-vous de cette année pour Sigfox?
Déjà, on s'était vu l'an dernier, peut-être effectivement, si c'est à cette époque-là, on n'avait pas encore finalisé notre tour de 100 millions d'euros, parce qu'on a véritablement terminé ce tour en mars 2015. Donc, et c'est vrai que ça a été un tour pour nous décisif, en sens où on avait levé précédemment 27 millions d'euros. Et le fait de lever 100 millions d'euros, étant une entreprise française, dans un domaine aussi aussi chaud que l'Internet des objets, parce que tout le monde veut y être aujourd'hui, donc on entend des communications de part et d'autre, donc il y a un bruit énorme sur l'Internet des objets. Et le fait d'avoir levé 100 millions quand on est une entreprise française, ça attire l'attention. Les gens se sont dit... une entreprise française qui est jeune, parce qu'on est quand même créé en 2011, capable de lever 100 millions d'euros, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de puissant derrière. Donc à ce moment-là, ça a permis aux Américains et d'autres Asiatiques de prendre l'avion et de venir constater ce qui se passait en France. Et donc on leur a donné des petits devices, des alarmes qu'on leur a donné, et ils se sont baladés avec ça en France. Ils ont loué des voitures et ils ont testé si ce qu'on disait était vrai, et visiblement c'était vrai parce qu'on savait que c'était vrai. Et donc ça a changé complètement la face des choses. C'est-à-dire que effectivement, avant de faire les États-Unis, donc on a annoncé effectivement San Francisco, on a fait New York, on a fait, donc il y a une dizaine de villes en couverte aux US, et on accélère toujours les choses. Donc ça a permis quand même de se dire il se passe quelque chose, et au-delà de ce qui se fait par ailleurs, parce que Sigfox aujourd'hui est le seul, enfin, ce qu'on a vu dans l'année qui vient de s'écouler, c'est que plein de gens se sont dit on va faire comme Sigfox, il y en a qui ont levé de l'argent 5 ou 10 millions, d'autres annoncent des choses avec des opérateurs télécoms, mais au global aujourd'hui sur le salon Mobile World Congress, si on pose la question qui est capable d'avoir une offre commerciale, c'est-à-dire une grille de tarifs, une carte de couverture et une ce qu'on appelle un engagement de qualité de service, personne d'autre que Sigfox aujourd'hui est capable de produire ça.
Alors pour nos auditeurs, vous avez annoncé cette semaine lors du Mobile World Congress un partenariat avec le groupe HBF. L'idée c'est quoi ? C'est d'investir en tant que Sigfox la maison, la smart home de demain ?
Alors effectivement, c'est quelque chose auquel honnêtement je pensais pas y mettre de l'énergie, parce que je me suis dit il y a tellement de choses à faire avec Sigfox en dehors de la maison, c'est-à-dire pour tous les projets qu'on a aujourd'hui de tracking d'animaux, de voitures, les bornes d'incendie, les compteurs d'eau, etc. Donc il y a un marché très très large aujourd'hui qui pour lequel il y a vraiment pas d'autre solution que Sigfox. Dans la maison, vous savez tous qu'il y a le Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a plein de choses dans la maison aujourd'hui. Et il y a plein de protocoles, vous avez n'importe quel aujourd'hui magasin où vous trouvez des objets à connecter à la maison. Donc je m'étais dit, c'est peut-être pas la peine de mettre trop d'efforts, là, tout le monde se bat. Prenons les opportunités, là où il n'y a personne, et prenons ce marché-là, puis après on ira dans la maison parce qu'on apporte un intérêt. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la société HBF Otio, c'est le nom du produit, ont compris plus rapidement que d'autres que finalement le fait de prendre Sigfox, ça permet de se passer de la box. Parce qu'à la maison, toutes les solutions qui existent, il faut une box sans plus. Et ça rend les solutions complexes, plus coûteuses, et donc moins simples d'installation pour le grand marché, pour le marché des gens qui sont pas des ce qu'on appelle des geeks, qui veulent allumer leur truc, l'utiliser sans se poser de questions. Et donc Otio a décidé que Sigfox était effectivement la solution pour ça, parce que la prise connectée, la capteur de fumée et autres, dès que vous mettez une pile dedans, vous branchez la prise, c'est fini, c'est connecté.
C'est-à-dire que la maison serait le premier jalon bête et méchant, simple, de la Smart City.
Alors, c'est vrai que la maison, quelque part, il y a vachement d'attente. Notamment, en France, en Europe, on se rappelle de la domotique, c'est l'ancien nom, maintenant on appelle Smart Home, parce que les choses changent, mais la domotique, il y a 25 ans, on avait des premiers films où on tapait dans les mains, ça allumait une ampoule, on retapait, ça l'éteignait. On en parle, c'est un fantasme collectif, je pense, on a tous envie de comme on est feignant, l'être humain, par essence, est feignant, de pouvoir tout commander de la voix ou sans bouger son fauteuil, c'est magique. Et jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui est très cher. Enfin, un des problèmes, c'est que technologiquement, on sait quasiment tout faire aujourd'hui. Mais à des coûts tels que le marché n'a jamais décollé vraiment en volume. Là, ce qu'on entend aujourd'hui, 1 million de pièces pour démarrer. Donc on espère bien aujourd'hui, si on prend Otio, je crois qu'ils ont vendu 36 millions d'équipements cette année ou l'année dernière. Donc on sent que les volumes sont énormes. Là, on commence seulement avec 1 million. Mais c'est des ordres de grandeur que personne ne peut affirmer aujourd'hui en dehors de ce qu'on a fait avec eux. Donc c'est, à mon avis, quelque chose qui va démocratiser la domotique, on va dire l'ancien nom, le smart home, si on veut parler ça avec des termes du moment.
D'ici 2018, le réseau Sigfox devrait couvrir l'Allemagne. Est-ce que l'idée, c'est de devenir le premier connecteur, le premier réseau pour une des grandes championnes de l'industrie 4.0?
Oui, effectivement, l'Allemagne était le seul territoire qui nous manquait. parce qu'on a l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, le Danemark, enfin, en gros, la plupart des pays d'Europe aujourd'hui, la République tchèque, le Benelux, donc on est quasiment partout. Il nous manquait l'Allemagne. Et on s'est dit, l'Allemagne, c'est quand même dommage. Pourtant, en Europe, on sait très bien quel est le poids de l'Allemagne dans le produit intérieur brut de l'Europe. On s'est dit, il fallait y aller. Donc, on a décidé d'y aller nous-mêmes pour aller vite. Parce que l'Allemagne est un pays très puissant, mais avec quand même assez conservateur. Donc, il fallait qu'on démarre rapidement. Et parce qu'il y a des industriels qui ont besoin de Sigfox. Parce que l'industrie 4.0, c'est quoi? C'est la maintenance prédictive. C'est comment faire pour que nos produits de demain, quand je dis demain, c'est presque aujourd'hui, quoi, nous puissent prédire leurs défauts, au lieu de subir une panne de sa machine à laver ou son réfrigérateur et d'être embêté parce que tant que le réparateur vienne, on est embêté. Bah, maintenant, la machine dira, d'ici une semaine, un mois, deux mois, je vais avoir un problème, donc venez me changer ma pièce, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle pour moi l'industrie 4.0, la maintenance prédictive. Et beaucoup d'acteurs, effectivement, sont en Allemagne, mais en Italie aussi. Beaucoup de fabricants de machines outils. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en Italie, en France aussi. Donc je pense qu'on va, grâce à Sigfox, amener la capacité de rentrer dans cette industrie 4.0 avec des composants novateurs, très bas coût, mais qui vont demain peupler toutes les machines qu'on a autour de nous, le réfrigérateur, l'aspirateur, tout ce qui nous entoure aujourd'hui va être connecté, parce que c'est simple, il n'y a pas besoin de la configurer, ça coûte pas grand chose et ça peut rapporter gros, comme diraient certains.
Eh ben, on va vous suivre dans cette grande ambition. Ludovic Lemoine, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes président de Sigfox.
Merci Lila, on revient dans un instant. Notre passion selon Sanette, dans un instant, on va parler des développeurs sur BFM Business. À tout de suite.